Annie Regon présente Du patrimoine et des hommes dans Carrefour des Arts.
Bonjour, bienvenue dans ce Carrefour des Arts consacré au patrimoine, aux monuments et aux hommes. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Alain Erland Brandenburg, conservateur général honoraire du patrimoine et médiéviste, qui va nous parler de l'abbaye de Saint-Denis. Donc bonjour monsieur.
Bonjour Annie.
Nous allons donc parler des différentes étapes de la création et de la construction de ce lieu qui est si important pour l'histoire de la France.
Je crois qu'en effet, Saint-Denis représente l'histoire de France depuis ses origines, c'est-à-dire depuis Clovis, puisque c'est Sainte-Geneviève qui a construit au-dessus de la tombe de Saint-Denis la première basilique, jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à Napoléon III. Et dès lors qu'on étudie cet ensemble de monuments, on se rend compte qu'on ne peut le traiter que sur la longue durée.
Oui, alors c'est le but de ces émissions, c'est de parler de ces monuments, donc non pas à l'achèvement de la première campagne de travaux, mais depuis leur création jusqu'à nos jours. Alors on va commencer au commencement. Donc Sainte-Geneviève, vous pouvez nous parler un petit peu de cette figure féminine si sympathique?
Sainte-Geneviève a été l'un des personnages les plus importants du début du VIe siècle, au moment où il y a encore les invasions barbares et notamment celle d'Attila. L'image qu'elle représente pour les Parisiens, mais également pour les Français, c'est d'avoir stoppé cette arrivée d'Attila. Et elle est chrétienne, elle est catholique, pratiquante. Elle décide de concentrer ses efforts sur le culte de Saint-Denis, qui avait été martyrisé et enterré à Saint-Denis. Et elle bâtit une basilique que l'on connaît pas très bien, mais qui est déjà importante, sur le lieu même de sa sépulture. Il était d'ailleurs inhumé avec ses deux compagnons rustiques et Eleuther. Mais aussi, Sainte-Geneviève a été enterrée, c'est tout aussi important, dans une autre basilique qui avait été construite par Clovis au sommet de la colline, ensuite qui s'appellera Sainte-Geneviève. Et cette basilique, destinée à abriter son tombeau, vraisemblablement dans un mausolée de plan circulaire, elle-même, après sa mort, y sera inhumée. Ce sont donc deux moments extrêmement importants qui établissent une sorte de dialogue contemporain entre ces deux édifices. Par chance, Saint-Denis a subsisté, par malchance, le percement de la rue Clotilde a abouti à faire disparaître l'abbatiale de Sainte-Geneviève, qui était un monument grandiose et qui a été renouvelé lui aussi au cours des âges.
Oui, de manière quand même importante aussi.
Absolument.
Mais on retourne à Saint-Denis.
Alors Saint-Denis va devenir, non pas immédiatement, mais très rapidement, un lieu phare de l'histoire de France. D'abord parce que Pépin, qui est le premier roi de la nouvelle race, dite ensuite carolingienne, va s'installer à Paris, comme Clovis était installé à Paris, et comme Dagobert avait déjà établi un lien avec Saint-Denis lui-même étant roi, Pépin va s'inscrire dans cette tradition. Et en même temps, il décide de renouveler l'ancienne basilique de Sainte-Geneviève. Et ce qui est essentiel avec ce personnage, qui a voulu, avant Charlemagne, lancer une politique qui s'inscrit dans la tradition, disons, de l'Antiquité tardive, plutôt de Saint-Augustin, voulant renouveler cet édifice, y s'inspire des basiliques romaines.
Alors, les basiliques romaines, on pourrait peut-être rappeler les caractéristiques.
Alors, les basiliques romaines, d'abord, ce sont des bâtiments qui ont été construits par Constantin. Le plan, l'élévation ont été imaginés par les architectes de Constantin, s'inspirant manifestement de la basilique civile, qui est un édifice, une sorte de tribunal, destiné à accueillir le public et constitué de deux éléments. À l'est, ou quelquefois à l'ouest, une abside où siégeait le tribunal, et la nef en trois vaisseaux où se trouvait la population. Et c'est à partir de ce bâtiment civil que les architectes de Constantin l'ont complété et l'ont transformé, l'ont complété en mettant à la place du tribunal et l'emplacement du siège du juge un hôtel. Un hôtel sur lequel on va consacrer le pain et le vin. Et dans la nef, il établit les fidèles. C'est-à-dire un emplacement destiné à tous ces catholiques qui veulent participer visuellement et physiquement à cette célébration eucharistique. Dans le domaine de l'architecture, c'est une architecture très simple, tout simplement parce qu'elle est charpentée et que par là même, on peut éviter d'avoir des murs trop épais. Et cette architecture s'est imposée, de par la volonté de Constantin, à l'ensemble de l'Empire romain, aussi bien dans ce qui va devenir très bientôt l'Orient, mais également en Occident, en Gaule, et les découvertes récentes ont mis en lumière que tous ces premiers édifices relevaient de cette esthétique.
Donc du IVe siècle.
Et cette esthétique dont on commence à soupçonner l'importance s'est poursuivie pratiquement jusqu'à l'époque romane. Il y a eu évidemment des modifications. Et dans la vision de Pépin, qui veut à la fois renouer avec la tradition constantinienne, mais qui d'autre part veut réformer l'Église en imposant le rite romain, c'est un choix capital.
C'est un choix politique aussi.
C'est un choix politique et religieux. Il est évident qu'on entre dans une nouvelle phase où le religieux et le politique sont étroitement liés. Charlemagne marquera encore une étape. Mais le choix dans la construction est tout à fait significatif. C'est un plan constantinien, et pour mettre en valeur les reliques de Saint-Denis, de Rustique et Eleuther, il reprend un parti imaginé par Grégoire le Grand. Nous sommes autour des années 600, ce qu'on appelle la confession à la romaine, où vous avez, dans la crypte, un déambulatoire qui permet aux pèlerins et aux fidèles de tourner autour des reliques. Grégoire Ier a joué un rôle capital dans la reconnaissance des reliques pour le culte chrétien, établissant un lien plus intime, plus affectif, j'allais dire, entre les fidèles et la religion. Ce sont les intermédiaires. Donc Pépin reprend cette confession à la romaine, qui subsiste encore dans la crypte, qui a été retrouvée d'abord par Viollet-le-Duc dans ses travaux du XIXe, et dégagée beaucoup plus récemment par l'architecte Formiger. C'est un édifice en plus qui est en pierre, alors que l'architecture romaine était en brique, et d'autre part, on innove également dans le domaine de la maçonnerie, puisque c'est une taille de pierre qu'on retrouve, la tradition romaine, d'une remarquable qualité et qui va marquer une grande partie du monde médiéval. D'abord l'époque carolingienne et la suite.
Donc avec des artisans capables de tailler la pierre d'une manière qui n'est pas du tout décadente.
Absolument.
On a l'impression que les savoir-faire se sont quand même perpétués.
Ou perpétués ou retrouvés, ça, évidemment, comme toujours, c'est difficile à dire. Mais il est évident qu'il y avait des modèles en Gaule, où on a toujours construit en pierre, même s'il y a quelquefois des rangs de briques. Mais la tradition de la pierre remonte très très haut, à la différence encore une fois de Rome. Et la volonté de Pépin, c'est tout cela. Un édifice moderne, une confession qui s'inspire de celle de Rome, et renouer avec la tradition de la construction de pierre. Ça fait basculer la Gaule dans une histoire qui s'est terminée, je dirais, au début du XXe siècle.
C'est ça, avec l'apparition des matériaux nouveaux.
Des matériaux nouveaux, il est évident que, notamment dans le nord de la Gaule, c'était facile. Les carrières sont absolument extraordinaires, sont à fleur de terre.
Et la pierre est de qualité.
Et quand on regarde les monuments parisiens de la région parisienne, on est stupéfait par non seulement la qualité de la pierre, mais par la façon de la travailler. Et je crois que l'acte de Pépin est un acte fondateur.
Alors, après Pépin,
l'histoire est beaucoup plus calme et on saute directement au milieu du XIIe siècle. Au milieu du XIIe siècle, où nous sommes dans la France du Nord, dans un pays, je dirais, à l'avant-garde. À l'avant-garde dans le domaine intellectuel et dans le domaine religieux, ils sont évidemment étroitement liés. Une réflexion très nouvelle qui renoue d'ailleurs, là encore, avec les textes de l'Antiquité tardive et qui renoue également avec cette architecture constantinienne. Il faut dire que la France du Nord n'a pas de monuments romans. Le panorama du début du XIIe est un panorama, encore une fois, qui relève de l'esthétique constantinienne. C'est-à-dire, ça a marqué ce que les personnes dont, que l'on va évoquer, les maîtres d'ouvrages religieux qui se trouvent confrontés à une inquiétude, une double inquiétude. Une inquiétude sur la liturgie, une inquiétude sur les fidèles. Les villes se repeuplent, deviennent particulièrement nombreuses, et Paris en est un exemple parmi tant d'autres, et à cette inquiétude et à cette prise en compte des fidèles s'ajoute le problème de la liturgie. Et pour ces religieux, dont l'abbé Suger, la liturgie passe par l'intermédiaire des reliques des saints. Et l'abbé Suger, qui appartient à une petite noblesse d'Île-de-France, étant très jeune comme oblat à Saint-Denis.
Alors comme oblat, il faut peut-être rappeler la définition de ce mot.
Son père l'a offert à l'abbaye de Saint-Denis, sur l'autel majeur de Saint-Denis, alors qu'il avait 7 ou 8 ans. Et ainsi offert à Saint-Denis, il va y passer sa vie. Il ne sera d'ailleurs prêtre que très tardivement.
Très tard, oui,
c'est
ça.
Très tardivement. Et ce personnage est un personnage absolument passionnant et va profiter de tout son environnement. D'abord, son environnement intellectuel. La bibliothèque de Saint-Denis est très riche et parmi les livres et les manuscrits qui s'y trouvent, il y en a un qui est grec, qui est ce qu'on appelle un ouvrage, on n'en connaît pas l'auteur, on appelle le pseudo Aéropagite, un personnage qui a été fortement marqué par toute cette littérature du IVe siècle, par Plotin, et qui a écrit ce qu'on appelle la hiérarchie céleste. Il se plonge dans cet ouvrage, et en même temps, à Paris, il y a un enseignement un peu révolutionnaire, qui est dû à un religieux également, un chanoine, Hugues de Saint-Victor, qui va lui aussi s'inscrire dans cette tradition.
Alors nous allons abandonner l'abbaye de Saint-Victor quelques instants et nous nous retrouverons dans quelques instants donc avec notre invité M. Alain Erland Brandenburg.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire, leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles, historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent, retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie.
Nous retrouvons l'abbaye de Saint-Denis et plus particulièrement donc aujourd'hui M. Alain Erland Brandenburg qui nous parle de l'histoire assez fascinante de cette abbaye qui est toute proche de Paris, qui existe encore. Alors nous avons déjà évoqué la figure de Sainte-Geneviève, celle de Pépin et nous en étions arrivés à l'abbé Suger qui est en étroite collaboration avec l'abbaye de Saint-Victor, qui malheureusement n'existe plus, qui se trouvait à peu près à l'emplacement du Jardin des Plantes d'aujourd'hui, non loin de la gare d'Austerlitz, si
absolument.
Mes souvenirs sont bons, c'est
absolument.
Ça. Donc cette abbaye a malheureusement disparu, mais on a encore sa bibliothèque, par contre,
absolument.
À la Bibliothèque nationale, et on sait que c'était un haut lieu de culture, donc qui a pu avoir cette influence très bénéfique dont on avait déjà un petit peu parlé l'autre fois. Alors reprenons le fil de cette histoire.
L'abbé Hugues de Saint-Victor va former toute une génération et on trouve qu'à l'origine des grands monuments qui relèvent de la nouvelle esthétique dite gothique, ce sont des gens proches d'Hugues de Saint-Victor comme l'abbé Suger l'était lui-même, mais avec une dimension plus grande parce qu'il a une curiosité, une culture tout à fait extraordinaire. Et très tôt, il va être reconnu par l'abbé de Saint-Denis, Adam, va rédiger pour Adam un certain nombre de textes qui sont très importants parce que parmi ces textes, il y a la célébration de l'anniversaire de Dagobert, c'est-à-dire la volonté commune de l'abbé Adam et de Suger de célébrer les rois de France. En même temps, l'abbé Suger est un réformateur, c'est-à-dire il s'inscrit dans ce qu'on appelle la réforme grégorienne, va faire en sorte de réorganiser, de rétablir la vie régulière dans l'abbaye, ce qui ne s'est pas fait sans problème. Et enfin, pour mieux signifier cette réorganisation, il va reconstruire l'abbaye. Alors, suivant la tradition bénédictine, on commence par les bâtiments. Et une fois que les bâtiments sont faits, c'est-à-dire on commence par le cloître, il va se lancer dans la reconstruction de l'abbatiale. Nous sommes dans les années 1130. Entre-temps, il a été élu abbé, étant a reçu les ordres, il n'était pas prêtre jusque-là, et cette reconstruction, il la prépare pratiquement pendant 20 ans. D'abord, problème budgétaire. Il réorganise le budget de l'abbaye, dégage des ressources absolument gigantesques qui vont lui permettre de se lancer dans une entreprise très coûteuse.
Il est quand même soutenu par le roi dans cette entreprise.
Alors, dans cette entreprise, il est évident qu'entre-temps, c'est l'aspect politique. C'est un personnage qui a tout fait, qui est très proche du roi. Il a été sur les mêmes bancs d'élèves que le roi Louis VII. Il a connu Louis VI. Mais le roi le protège. Et enfin, et dernière chose, pour lier plus étroitement l'abbaye de Saint-Denis et la monarchie, il va élaborer une doctrine royale, l'idéologie capétienne qui est fondamentale.
Oui, c'est très important. Ça,
très important.
Je crois que ce n'est pas suffisamment connu.
Ce n'est pas du tout suffisamment connu, on ne l'a pas compris, peut-être parce que ça a été élaboré par un religieux. Mais le fondement de la pensée capétienne a été élaboré à cette époque-là et en grande partie par l'abbé Suger.
Oui, et à Saint-Denis, donc.
Et à Saint-Denis. Il a été régent du royaume pendant la croisade. Il a nourri les armées du roi qui étaient en Orient. Là aussi, il met un peu d'ordre dans le budget de l'État. Nous sommes devant l'une des très, très fortes personnalités qui cumule à la fois la vision religieuse, la vision politique et l'intérêt pour les fidèles. C'est dans cet esprit qu'il reconstruit l'abbatiale. Il commence dans les années 1135 environ, peut-être un tout petit peu avant, après avoir terminé le cloître. Et pour ne pas choquer les moines, qui ne sont pas tout à fait favorables au changement, il va faire en sorte de construire la nouvelle abbatiale en prenant en tenaille l'ancien bâtiment. Il respecte la basilique de Pépin, aménage au devant, bien au devant, un massif occidental et à l'est, le chevet. Il commence par la façade occidentale, c'est capital, parce que, et il le dit dans ses différents écrits, pour accueillir les fidèles. La préoccupation de cette génération très forte a été les fidèles.
Les fidèles, ce qui est relativement nouveau pour un établissement monastique, en fait, qui n'était pas voué véritablement à s'ouvrir vers l'extérieur.
C'est révolutionnaire, oui. C'est complètement révolutionnaire. Et pour ce faire, il va agrandir vers l'ouest l'abbatiale pour que la place des fidèles et des pèlerins soit adaptés à leurs souhaits, à la fois d'assister...
Et à leur nombre aussi, peut-être.
Et à leur nombre, et surtout à leur nombre. Mmh. Et la deuxième chose, c'est la construction du chevet, qui lui relève de cette volonté d'adaptation liturgique. Et là, il reprend le parti de la confession à la romaine, et il va déplacer les reliques du saint qui étaient jusque-là dans la crypte, sous l'autel majeur, et la met dans la partie supérieure, à l'est de l'ancien autel majeur. On ne déplace pas l'autel, on déplace rarement les autels.
C'est une constante.
C'est une constante.
Dans presque toute l'architecture religieuse, même à l'époque baroque, on a beaucoup bousculé les plans des églises, on a quand même en général conservé l'emplacement de l'autel majeur.
Absolument.
C'est quelque chose de constant.
De constant,
absolument. Et dans toute l'Europe en plus.
C'est-à-dire qu'on construit l'édifice de culte à partir de l'autel.
De l'autel.
À partir de l'autel, s'il ne bouge pas, eh bien on pousse, comme à Saint-Denis, le chevet vers l'est, mais ce n'est pas le sanctuaire comme on le lit dans les livres, c'est l'autel des reliques, enveloppé par un double déambulatoire qui s'ouvre sur des chapelles rayonnantes où il y a également autel et reliques rassemblées de toute l'Église pour être placées là. Et vous êtes devant un phénomène qui n'est pas nouveau, parce qu'on avait la même chose un peu auparavant à Notre-Dame de Fleury, c'est-à-dire que le célébrant tourné vers l'Est et non plus vers l'Ouest utilise toutes les reliques des saints pour prier et derrière lui, il y a les fidèles. C'est une image extrêmement forte et extrêmement belle que célébrant la première messe, c'est au lever du soleil, il est accompagné des fidèles qui l'entraînent vers Dieu avec le relais des différents saints enterrés à Saint-Denis. Et pour tout ça, il invente une nouvelle architecture à laquelle on a donné le nom de gothique.
Beaucoup plus tard.
Beaucoup plus tard.
Lui-même ne se définissait pas comme l'instigateur de l'architecture gothique, puisqu'au départ, c'était un mot péjoratif.
Péjoratif. Et quand on prend les textes, autant ceux de l'abbé Suger que d'autres, on s'aperçoit que la référence de ces maîtres d'ouvrage, et notamment de l'abbé Suger, qui avait une culture livresque très forte, mais une culture visuelle tout aussi importante, ces références sont de l'Antiquité tardive. Il ne cherche pas à rivaliser avec l'art roman, il cherche à remplacer des monuments relevant de l'esthétique constantinienne par une architecture qui est également constantinienne dans son esprit. Murs minces, mais voûtés, ouvertures gigantesques à l'intérieur avec les grandes arcades, les baies très nombreuses qui apportent la lumière, non plus la mosaïque, mais le vitrail qui modifie la lumière, et enfin et dernière chose qui est tout aussi importante, c'est-à-dire la sculpture, l'image. L'image est omniprésente dans la construction de l'abbé Suger.
Donc c'était le second personnage important à l'époque médiévale. Et alors, il y en a encore un troisième qu'on va avoir le temps d'évoquer rapidement.
La basilique de l'abbatiale de Saint-Denis n'est pas terminée par l'abbé Suger. Il y a eu des difficultés politiques, internes, etc. Et en 1231, l'instigation de Saint-Louis, l'abbé Eudes-Clément va terminer la construction, mais suivant un schéma complètement différent. Pour se résumer et pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut se rappeler que un grand nombre de rois de France étaient enterrés à Saint-Denis de façon un peu désordonnée. Saint-Louis va demander à l'abbé Eudes-Clément de réorganiser tout ceci suivant un schéma très précis et un schéma politique, en faisant en sorte de mettre les tombes royales à la croisée du transept, dans une sorte de martyrium, là encore une tradition antique, mettant au sud et à l'ouest le seul mérovingien, qui était Clovis II, Dagobert était tailleur, déclinant ensuite de l'ouest vers l'est tous les carolingiens, et mettant au nord tous les capétiens, suivant un schéma également chronologique. Et au milieu d'eux, les trois rois, dans lequel se mêle le sang, à la fois des mérovingiens, des carolingiens, et donc des capétiens, avec Philippe Auguste, Louis VIII, et plus tard Saint-Louis. C'est-à-dire que vous avez, dans ce transept qui a pris des dimensions évidemment gigantesques, l'image de l'existence, non pas de trois races, comme on le dit aujourd'hui, une seule race, qui a été baptisé par Rémy à Reims, qui est l'héritière donc de Clovis, auquel Charlemagne va ajouter le couronnement. Donc nous sommes dans un moment capital de l'histoire de France. L'histoire de France est unique, il n'y a qu'une race, et Saint-Louis est le descendant de cette race.
Voilà. Et alors ça s'accompagne aussi de magnifiques floraisons de sculptures, puisqu'il commande des plates-tombes pour tous ses ancêtres, puisqu'il les considère tous comme ses ancêtres.
On bouleverse un peu l'histoire. Par exemple, Charles Martel n'a jamais été roi, mais on le représente comme un roi, avec la couronne, le cèpe, le manteau royal. Et vous avez là une image qui va marquer toute l'Europe, parce que ça va être la référence monarchique. le monarque s'exprime non seulement parce qu'il est héritier de Clovis, s'exprime également parce qu'il est oint et sacré, s'exprime également par sa représentation et par le fait qu'il est accompagné de rois et de reines également consacrés. L'idée de Saint-Louis, c'est d'affirmer visuellement qu'il n'y a qu'une race, même s'il y a des Mérovingiens, des Carolingiens et des Capétiens, car c'est le même sang grâce à des mariages qui coulent dans leurs veines et qui aboutit à Saint-Louis. L'Europe entière s'est inspirée évidemment de cette vision monarchique qui est très exceptionnelle et qui donne à la France une dimension très très remarquable. Il ne faut pas oublier que le deuxième élément, plus tard par Saint-Louis, c'est la récupération des reliques de la Passion qu'il installe à Paris, dans la Sainte-Chapelle, à côté de sa chambre, et qui fait que Paris devient le plus haut lieu de la chrétienté.
Après Rome. L'égal de Rome.
À l'égal de Rome, ce sont les reliques de la Passion du Christ. Alors, à la fois pour la Sainte-Chapelle et pour Saint-Denis, on a imaginé, là aussi, dans la tradition gothique, une architecture très nouvelle. Cette architecture se définit par la réduction de la pierre à une sorte de squelette. Elle est pratiquement inexistante au profit de la cloison translucide. Saint-Denis en est le premier exemple. Nous sommes en 1231. 17 ans après, on consacrera la Sainte-Chapelle. Mais le dialogue entre les deux monuments est un dialogue intense, parce que dans les deux, c'est Saint-Louis, et dans les deux, on a une volonté de donner à la lumière une dimension qu'elle n'a jamais eue et qu'elle n'aura jamais dans l'histoire de l'architecture mondiale. L'architecte, nous ne savons pas très bien qui il est, ni pour l'un ni pour l'autre. On sait que Pierre de Montreuil a joué un rôle important. Mais vraisemblablement, le premier architecte qui a commencé les travaux en 1231 est l'une des grandes personnalités et il a tout conçu. Comme celui de l'abbé Suger au XIIe siècle, l'architecte conçoit non seulement l'architecture, mais le vitrail relève de son autorité, la sculpture relève de son autorité et même si ça choque un peu, mais il faut le dire, et même ce qu'on appelle les objets d'art, ou plutôt les ornamenta ecclésiés. C'est un ensemble, un tout, et il ne peut se comprendre que comme un tout. Notre vision moderne sépare tout ceci et rend la réalité incompréhensible. Il faut l'imaginer comme un tout au XIIe, au XIIIe siècle. Saint-Denis en est l'exemple pour le XIIIe, la Sainte-Chapelle en est l'autre.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Erland Brandenburg, et à une prochaine fois pour de nouveaux monuments et de nouveaux hommes.